Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Au Libre Journal de la Défense, nous ne dédaignons pas, bien sûr, l'actualité et nous y consacrons évidemment des émissions. Mais nous proposons aussi à ceux qui nous font l'honneur et le plaisir de nous écouter des émissions qui, plongeant dans l'histoire, nous en font toucher certaines constantes. C'est ainsi qu'au moment où la rumeur rapporte que des troupes aéroportées américaines auraient fait mouvement vers le Proche-Orient, nous vous proposons d'évoquer ces troupes qui, il y a plus de 80 ans, ont combattu de la Normandie aux Alpes bavaroises, en passant par la Hollande et l'Alsace. Ce n'est pas une évocation où la stratégie et la tactique tiendraient la première place, même si nous les évoquerons. C'est d'abord l'histoire d'hommes au combat, la vie quotidienne d'une escouade de parachutistes, c'est-à-dire une douzaine d'hommes, en première ligne, avec ce que cela suppose de réflexion sur la guerre, la fraternité face à la violence extrême, face aussi, bien évidemment, à la mort, face aux souvenirs des camarades tués au combat. C'est aussi, nous dira notre invité Nicolas Ancelin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
La petite histoire qui raconte la grande. Un fascinant périple à hauteur d'homme. Et donc pour traiter de tout cela, je vous accueille Nicolas Ancelin, qui avait traduit et remarquablement présenté le livre de David Webster, Du débarquement au Nid d'Aigle, mémoire d'un parachutiste américain, qui était publié aux éditions Équateur. Un livre de 553 pages qui tient le lecteur en haleine du début à la fin, et je n'hésite pas à dire que à la fin de sa lecture, on est profondément bouleversé par ce récit. Et c'est un ouvrage qui inspirera très largement la célèbre série Band of Brothers, diffusée au début des années 2000 et dont les producteurs étaient Tom Hanks et Steven Spielberg. Nicolas Ancelin, vous n'êtes pas inconnu de nos auditeurs, puisque le 6 octobre dernier, vous étiez à ce micro pour nous parler avec passion sur l'ouvrage de Bill Mauldin, Sur le front, la face cachée de l'US Army, édition Pierre de Taillac. Et là encore, vous aviez traduit et présenté cet ouvrage. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, ancien grand reporter à Géo et passionné de parachutisme. Et sur ce point-là, je pense qu'il sera très intéressant pour nos auditeurs de savoir que vous sautez encore régulièrement en parachute et notamment dans des conditions et sur des lieux qui nous ramènent à notre émission proprement dite. Et cher Nicolas, vous ayez encore remercié de votre présence. Dites-nous un petit peu ce qui prochainement vous attend du côté de la Normandie.
Alors, ce qui nous attend, c'est comme chaque année, des sauts de commémoration à la mémoire justement de ces combattants venus d'outre-Atlantique, très jeunes, qui ont tout quitté, qui ont risqué leur vie, qui pour beaucoup l'ont perdu en Normandie. Et donc, nous sommes une association qui s'appelle Round Canopy Parachuting Team. Et tous les ans, depuis 2009, alors moi j'ai rejoint seulement en 2013 cette association par curiosité, un peu comme Webster, parce que je suis de nature très curieuse. Webster, une de ses motivations, on va en parler plus longuement, mais c'était justement de voir un peu ça de plus près. Et moi j'avais entendu parler de ces parachutages, donc je me suis dit, j'aimerais bien essayer une fois pour voir ce que c'est que de sauter d'un avion. Alors on saute d'un avion de l'époque, un C-47 Dakota qui a participé aux opérations du débarquement en Normandie et puis ensuite en Hollande. Et donc, voilà, nous sautons. Donc, j'ai commencé en 2013 en me disant, je vais faire quelques sauts pour voir ce que c'est. Et puis, je suis tombé comme Obélix dans la marmite de potions magiques et c'est devenu une addiction. Et parce que, voilà, j'ai rencontré des gens formidables que je continue à voir régulièrement. Donc, depuis 2013, tous les ans, deux fois par an, si possible, en Normandie et en Hollande, nous sautons à l'endroit même où les parachutistes américains ont sauté, sur les drop zones, ce qu'on appelle les DZ de Normandie et de Hollande, sur lesquels ils ont sauté. Et donc cette année, nous allons faire 5 sauts avec RCPT, Et comme nous sommes, cette année, nous allons célébrer le 82e anniversaire du débarquement et donc des opérations aéroportées qui s'y attachaient, nous allons sauter dans des drop zones de la 82e aéroportée autour de, dans la région de Picauville, pas très loin de Sainte-Mère-Église, bien sûr, puisque c'est dans cette région-là que les principaux parachutistes sont tombés en 44. Et donc voilà, nous allons effectuer quatre sauts dans cette région-là, aux alentours du 6 juin.
Et en parallèle de l'intérêt que vous avez manifesté pour ces opérations aéroportées, vous avez eu la chance de rencontrer à la fin de leur vie quelques vétérans qui avaient sauté
Absolument.
En 1944.
Absolument.
Et bon, ils avaient 90 ans et plus.
Ils avaient tous passé 90 ans.
Mais quelques mots, quelle impression?
J'ai tenu à leur rendre hommage dans la préface du livre dont nous allons parler, parce que ce sont tous des frères d'armes de David Webster. Ils étaient pour certains dans le même régiment, le 506e Parachute Infanterie Régiment, et ils m'ont tous laissé une impression. Alors, bien sûr, leurs souvenirs ont été pour moi une source de curiosité, enfin une source de très grande émotion, parce que je les ai entendus raconter leur débarquement à eux, et ça correspond exactement à ce que c'est eux d'ailleurs qui m'ont donné l'envie de poursuivre la lecture et de découvrir le livre de Webster. Alors je voudrais rendre hommage en particulier à deux d'entre eux, j'en parle dans la préface du livre, mais en particulier Tom Rice, qui à l'âge de 98 ans, en 2019, pour le 75e anniversaire du débarquement, a ressauté en parachute, pratiquement à l'endroit où il était tombé en 1944, avec notre association, avec RCPT. Il a ressauté d'un Dakota. Alors il a fait un saut en tandem, il n'a pas sauté comme à l'époque en parachute en coupole, ce qu'on appelle la round canopy, les parachutes qu'on utilise, mais quand même, 98 ans. Voilà. Et puis il a ressauté la même année en Hollande. Et lui, c'était un personnage, voilà, qui était d'une vigueur, d'un humour incroyable. Et il nous a raconté que quand il était en permission à Paris, il a escaladé la Tour Eiffel à main nue. Il a failli se faire arrêter à la descente. Enfin, il a suivi toute la saga des parachutistes depuis l'Angleterre où ils étaient basés, avant d'arriver en Normandie, jusque dans les Alpes bavaroises, puisqu'il a fait partie de l'unité qui a pris le Berghof.
Alors c'est cette saga des parachutistes que nous allons évoquer l'espace d'une heure trente, et une saga qui est décrite, écrite par un personnage tout à fait singulier, David Kenyon Webster, singulier à tel point que on peut parfois se demander comment cet étudiant en littérature de Harvard, issu d'un milieu plutôt aisé, a pu se retrouver dans les parachutistes, quand on sait, vous le dites dans votre ouvrage, que sur les 8 millions d'hommes mobilisés aux États-Unis, seuls 20% étaient dans des troupes combattantes, et qu'au sein des troupes combattantes, l'infanterie et encore plus les parachutistes n'étaient pas considérés du point de vue social comme appartenant à l'élite
absolument,
américaine.
Absolument, donc, il est tout à fait voilà, atypique.
Qui est David Webster et quelle est la place spécifique de son, ouais. de son témoignage par rapport à d'autres
Alors,
témoignages
Alors justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt de son livre, c'est que David Webster, c'était un intellectuel très jeune, mais un intellectuel qui avait beaucoup lu et qui était en 1942.
Alors, qui est né en 22.
Qui est né en 1922.
Il a 20 ans en 1942.
Exactement.
Et 22 ans quand il saute en Normandie.
Exactement. Donc ça, il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est un très très jeune homme, mais qui a le goût de l'écriture, qui a le goût de la littérature, qui a lu beaucoup dans sa jeunesse et qui, par sa famille, a la possibilité, par ses origines sociales, d'intégrer l'université de Harvard après la fin de son cursus scolaire proprement dit, et qui se lance dans des études de littérature anglaise. Voilà. Et donc, très jeune, avant même de se porter volontaire pour intégrer le corps des parachutistes, il a la volonté d'écrire. Il ne sait pas encore s'il sera journaliste, s'il sera écrivain, mais en tout cas, c'est l'écriture qui le tient. Et il voit dans cette guerre qui se déclare l'occasion pour lui d'une expérience et de finalement de faire... l'expérience d'une chose incroyable, parce qu'il avait été en contact avec des anciens combattants, mais jamais il n'avait pensé, jeune, que lui-même aurait aussi à combattre. Et il explique très bien que quand c'est arrivé, ça lui a semblé la chose la plus inimaginable, et il s'est dit « je veux rendre compte de l'inimaginable, je veux justement être le témoin de ce qui va se passer ».
Alors qu'il aurait pu bénéficier de passe-droit.
Absolument.
Sa famille lui permettait de faire la guerre de façon confortable.
Absolument. Il était issu d'une famille plutôt aisée. Il a grandi dans la petite ville de Bronxville, qui est à quelques kilomètres de New York. Et il faisait partie de cette élite sociale dont les relations lui auraient tout à fait permis d'être dans un service d'intendance, de rester aux États-Unis dans des bureaux, ou voire de même d'être déployé en Europe, mais en restant dans un état-major bien au chaud. Ou même, c'est ça aussi un choix de sa part, il aurait été tout à fait désigné pour devenir officier ou sous-officier. Parce qu'en 1942, l'armée américaine manque encore cruellement de cadres, de sous-officiers et d'officiers, et il avait tout à fait le profil. Il a toujours refusé de devenir officier, il voulait rester le témoin, le simple soldat, qui, au niveau le plus humble, allait voir ce qu'il allait voir. Mais il n'avait encore, à l'époque, aucune idée de ce qu'il allait voir. Justement.
Mais si on anticipe un petit peu, ce jeune engagé dans les parachutistes va se trouver dans une escouade, c'est-à-dire une douzaine de parachutistes, mais comme souvent sur le terrain, il sera en tête de son escouade pour éclairer, pour...
Voilà, alors ça c'est la deuxième...
Renseigner, donc il n'est pas, même au sein de l'escouade, il n'est pas derrière.
Non, il n'est pas derrière parce qu'il a une motivation également, c'est pas seulement un curieux qui vient voir comment ça se passe chez les paras et à quoi ressemble la guerre, c'est aussi quelqu'un qui est porté, il est profondément démocrate, il est profondément, alors démocrate au double sens, puisque même en 1944 il va voter comme
oui,
tous les soldats américains.
J'observe qu'en 1944, les soldats américains peuvent voter.
Absolument,
les conditions leur sont offertes pour voter.
Sur le front.
Pourquoi il vote Roosevelt et
exactement.
Pourquoi il est opposé au candidat
donc,
républicain.
Et donc, il a une sensibilité très libérale et il est, dès son plus jeune âge, par sa famille, par ses origines, un opposant viscéral au nazisme. Il sait exactement de quoi les nazis sont capables, ce qu'ils ont accompli entre 1933 et 1942. Et il est parfaitement conscient qu'il faut s'opposer au nazisme. Et dans une lettre à ses parents, justement, qui se désole un peu, qui soit engagé non seulement dans l'armée, mais en plus chez les parachutistes, qui sont des troupes de choc, qui vont être vraiment au contact, les premiers au contact de l'ennemi, il dit à ses parents, et je le cite, « Vous me dites que vous ne vous êtes toujours pas fait à l'idée que j'ai rejoint les parachutistes. Que voulez-vous ? Vous voulez que nous gagnions cette guerre, mais apparemment vous ne voulez pas que votre fils s'implique dans les effusions de sang que cela suppose. » Et il dit « Il faut bien que quelqu'un aille trouver l'ennemi et le tue. » Donc c'est tout à fait direct comme motivation, et il dit aussi, il faut bien que quelqu'un, quelque chose comme ça, il faut bien que quelqu'un prenne le risque de mourir dans la boue. Voilà. Et cette phrase va avoir une importance capitale pour la suite de son récit, parce que mourir dans la boue, il va en voir beaucoup mourir dans la boue, et notamment un Allemand dont on reparlera un peu plus tard en Alsace.
Et ça sera un paradoxe pour qui parcourt tout le récit. C'est à la fois ses motivations initiales qu'il oublie parfois en se disant mais quelle stupidité, quelle aberration de la guerre. Puis après il se reprend et notamment en Allemagne en se disant mais en voyant les gens qui sortent des camps, finalement on ne s'est pas battu pour rien.
Voilà.
Mais il n'ira jamais enjoliver son récit par des considérations qui glorifieraient la guerre et
l'armée. Et la guerre, absolument. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de son récit, c'est que c'est d'une absolue sincérité.
Et cette sincérité, je vous interromps, on la retrouve donc tout au long de ce manuscrit, dont le cheminement est complexe. Parce que on va pas avoir une publication de ce manuscrit dans l'immédiate après-guerre, d'autant que vous expliquez que l'armée américaine sort assez glorifiée, mais avec une image glamour, dites-vous, entretenue par Hollywood.
Absolument.
Et donc, c'était difficile, dans les années 50, de publier quelque chose qui était autobiographique, mais qui ne montrait pas l'armée américaine sous le jour...
Le plus
favorable. Donc, alors, comment finalement...
Alors ça,
ce document va finir par être publié.
Ouais. Alors ça, c'est une aventure aussi. L'histoire du manuscrit de ce livre est tout à fait singulière. David Webster donc fait la guerre en partie parce qu'il y voit donc une expérience nouvelle et instructive. Bon. Et quand il rentre, à la différence de la plupart de ses compagnons d'armes qui n'ont qu'une idée, c'est d'oublier la guerre, de commencer leur vie, et de ce qu'il fait aussi d'ailleurs. Mais il a tout de suite le projet d'écrire ce qu'il a vécu à chaud. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de son témoignage. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez lui, il récupère les lettres, parce qu'il a beaucoup écrit de lettres à ses parents, à son frère, à des membres de sa famille. Il récupère ces lettres et il s'attelle tout de suite, dès 1946, à la rédaction d'un manuscrit. Une fois que ce manuscrit est terminé, il le propose à des éditeurs et il est à chaque fois refusé. Les éditeurs ne veulent pas, ils le lisent, ils trouvent que c'est beaucoup trop sec, beaucoup trop réaliste finalement, même si on ne lui dit pas en ces termes, et que ça ne trouvera pas de lecteur. Parce que dans l'Amérique, à la fin des années 40 et des années 50, comme vous l'avez très bien dit Philippe, les Américains ont envie de tourner la page et de garder l'image d'une croisade glamour en Europe, comme le cinéma hollywoodien va le marteler pendant toutes ces années. Il y a beaucoup de films qui sortent, mais finalement, la guerre est vue comme quelque chose d'assez valorisant, d'assez tonique, d'assez sportif presque. Bon, alors il y a des films qui sont bien sûr un peu plus sombres, mais c'est cette image-là qu'on retient. Webster, c'est tout à fait l'inverse. Donc son manuscrit est refusé, il le laisse dans un tiroir, et puis les années passent. Et il se trouve qu'il a un destin lui-même assez tragique.
Il décède à 39 ans.
Voilà, il décède à 39 ans en 1961 parce qu'il est passionné de nautisme au sens large. C'est un très bon nageur, il fait de la voile, il fait de la plongée. Et pour une raison, alors il habite sur la côte est des États-Unis à ce moment-là. Il est parti de la côte est de New York, il s'est installé à côté de Santa Monica. Et il devient un passionné des requins. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient aux requins, mais dans les années 50, il va beaucoup à la pêche aux requins, il les étudie, il prend des notes, il va même jusqu'à nager parmi les requins pour montrer que certaines espèces ne sont pas dangereuses. Et là encore, il écrit un bouquin sur les requins, qui ne trouve aucun éditeur non plus, donc le manuscrit n'est pas publié de son vivant. Et un jour, il part en mer à la pêche aux requins, et sa femme l'attend le soir, il a un petit dinghy de 3 ou 4 mètres de long, et le dinghy ne revient pas. On fait des recherches, le lendemain des recherches sont lancées, et à quelques milles des côtes, on retrouve le dinghy, une rame est manquante, il n'y a plus de gouvernail, et lui, il a disparu. Et on ne retrouvera jamais son corps. Donc il est porté disparu, il est mort, en septembre 1961.
Mais son manuscrit...
Et son manuscrit est toujours dans son tiroir chez sa veuve. Et puis, les années passent, de nombreuses années passent, jusqu'à la fin des années 80, où l'historien américain Stephen Ambrose, qui travaille à l'Université de la Nouvelle-Orléans, lance un programme de recherche qui s'appelle Jour J, avec l'ambition de récolter tous les témoignages de tous les participants au jour J américains encore vivants. En 88, il y en a beaucoup, pas seulement les troupes aéroportées. Tous les, voilà, c'est un programme lancé par cette université. Et dans le cadre de ce programme, cet historien se rapproche de l'association des anciens de la du 506e régiment d'infanterie parachutiste.
De la 101e division aéroportée.
Il assiste à leurs réunions, il rencontre des tas de gens, il interviewe des tas de gens, il recueille du matériel, etc. Et puis il se dit, mais finalement, cette unité, ils ont vraiment été à la pointe de... Peut-être que je pourrais faire un livre sur eux, sur ce 506e régiment d'infanterie parachutiste. Et avec les contacts qu'il a parmi les survivants, quelqu'un lui dit, mais vous savez, il y avait un gars qui s'appelait David Webster, qui, je crois, a écrit un bouquin, bon, il n'a jamais pu être publié, peut-être que vous pourriez prendre contact avec sa veuve. Stephen Ambrose tombe sur le manuscrit, la veuve de Webster lui confie le manuscrit, et là, il reste sidéré par la qualité littéraire du texte, par l'histoire qu'elle raconte, par la précision des anecdotes, des témoignages. Et donc, dans son livre qui s'appelle « Band of Brothers », écrit par Stephen Ambrose, Stephen Ambrose dira dans la préface de Webster « C'était un observateur minutieux et un excellent écrivain. Sa contribution à ce livre est inestimable. » Voilà. Donc, quand on dit que tout le scénario de « Band of Brothers » est tiré de Webster... C'est largement inspiré parce que Webster sera blessé en Hollande, donc il ne participera pas par exemple à la bataille de Bastogne, à la bataille des Ardennes, au cours de laquelle ce régiment sera encerclé pendant plusieurs jours, etc. Donc ça, il n'y participe pas. Mais la contribution à la série Band of Brothers est vraiment décisive.
Et alors, ce personnage étonnant qu'est David Webster, vous dites aussi qu'il a des qualités d'introspection qui sont assez remarquables et qu'il est à la fois aussi bon acteur, hein, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire combattant, observateur,
absolument.
Avec une honnêteté viscérale qui est celle du témoin à qui rien n'échappe.
Et c'est vrai,
je confirme à nos auditeurs, auditrices, qu'au long des 550 pages, on voit que ce soit au combat ou à l'arrière ou à l'instruction, rien ne lui échappe. Et surtout pas ce qui se joue à l'intérieur de lui-même. Et ça, on le retrouve très très peu dans d'autres récits de
guerre.
Exactement. Tout à l'heure, en introduction, vous évoquiez sa lucidité, voire sa sincérité. C'est-à-dire que quand il a peur, il le dit.
Il le dit.
Quand la haine s'empare de lui, y compris pour ses chefs,
il le dit aussi.
Il le dit et, en tout état de cause, il l'écrit toujours très bien.
Voilà, c'est ça. Je dirais que si on peut faire une comparaison littéraire, tout le monde connaît Ernst Jünger, le grand écrivain allemand, l'auteur d'Orage d'acier et de quelques autres ouvrages, mais en tout cas sur ses mémoires de guerre, je dirais que Webster, c'est l'anti-Ernst Jünger. C'est-à-dire que Ernst Jünger, sa littérature, enfin sa façon d'écrire, c'est une façon, c'est un style qui est très épuré, dans laquelle il y a assez peu de place pour l'émotion. C'est magnifiquement écrit, mais ça ne rend compte en rien, ou seulement de façon très ténue, de ce qui se joue à l'intérieur de l'auteur, de ses affects, de ce qu'il ressent concrètement sur le terrain dans certaines situations. Alors que Webster, au contraire, il s'inclut lui-même dans le champ de son observation. Ouais. Et donc... Voilà, donc ça donne des moments, par exemple, avant son parachutage, quand il est dans l'avion, il dit « je suis pétrifié de trouille, j'ai l'impression que mes jambes sont en coton et vont se dérober sous moi ». Quand il atterrit dans le marécage derrière Utah Beach, il sent les larmes monter, il se met même à pleurer, il le reconnaît, il dit « j'ai jamais eu aussi peur de ma vie ». Enfin, il raconte toutes ces choses qu'on a assez peu l'habitude de lire finalement dans les récits de guerre.
Et tout à l'heure, vous disiez qu'il avait un tropisme pour les démocrates du fait de son intérêt pour le libéralisme. Vous dites c'est un libéral. Moi, je dirais différemment. Il est social au sens où, quoique d'un milieu aisé, il s'intéresse à ceux qui sont autour de lui, et il a des descriptions, notamment de ceux qui, pratiquement tous, viennent de milieux modestes, et on voit combien, en fait, ils s'intéressent à ce qu'ils font, d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent du sud, de quel endroit, il était boucher, il était coiffeur, il veut ouvrir un pressing après la guerre, et tout ça, c'est remarquablement dit, mais avec un intérêt et une empathie pour ses proches, enfin pour ceux qui sont avec lui, ses copains, je dirais de façon triviale, qui est à souligner aussi.
C'est la fraternité d'armes, et c'est ce qui a donné le titre de Band of Brothers, hein. C'est frères d'armes, la traduction française, c'est frères d'armes, et c'est cette fraternité-là qui décrit également très bien, mais qui, là, il la décrit parce que le texte est énormément dialogué. Et donc, c'est émaillé de jurons, de gros mots en permanence.
Alors vous qui l'avez traduit, alors, c'est une traduction difficile, compliquée?
C'était assez difficile parfois, parce qu'il y a des tas d'expressions américaines qui sont assez difficiles pour retrouver l'équivalent dans notre langue. Et justement, à ce sujet, j'ai une anecdote un petit peu triste, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois de sécher sur certaines expressions. Et donc, j'avais parmi les parachutistes américains qui venaient régulièrement nous voir, les vétérans, justement, dont on parlait tout à l'heure, il y en avait un, Vince Speranza, qui était le benjamin de l'équipe, et il avait que 96 ans quand il venait avec nous. Lui, c'était le bon vivant intégral, le genre de gars qu'on aurait aimé connaître quand il avait 20 ans, parce qu'avec une énergie pareille à 96, on se disait, mais à 20, il devait avoir des étincelles qui sortaient des yeux et des oreilles, enfin, ça devait être incroyable. Et donc, ce Vince Speranza, qui était toujours là, sur les drop zones, qui nous regardait, qui venait avec nous, qui fumait le cigare, qui avait toujours un verre de whisky à la main, ou presque, et qui chantait aussi le chant, le Blood on the Risers, le chant des para-américains, je lui avais demandé, parce qu'on était en contact, je lui avais dit, Vince, ça serait bien que tu m'aides un petit peu, parce que là, j'ai deux, trois expressions d'argot américain, j'ai cherché partout, sur tous les dictionnaires, je ne trouve pas, il faut vraiment que tu m'aides. Ça, c'était au mois de juillet 2023. J'étais en pleine traduction du livre. Et il me dit, par mail, il me répond, il me dit, oui, bon, on verra ça en septembre, je viendrai pour Market Garden en Hollande, on se retrouve en Hollande comme d'habitude en septembre. Bon, j'ai pas voulu insister quand même, 96 ou 97 ans, je me suis dit, bon, bah oui, ça attendra. Et il est mort quelques semaines après, donc il n'a jamais pu me donner sa traduction des expressions en question que j'ai pu par la suite finalement arriver à traduire. Mais c'est pour dire que voilà ce que raconte Webster, ça sort des tripes. C'était vraiment le langage de Chartier que parlaient les parachutistes, mais pas seulement les parachutistes, hein, toute l'armée américaine et tous les troufions du monde entier parlent un argot assez imagé, assez fleuri et assez donc ça a été aussi une façon pour lui de rendre hommage. Les dialogues sonnent absolument justes. On n'a pas l'impression que c'est des dialogues écrits, c'est le cas. Mais c'est ça fait partie de cette authenticité qui transparaît dans toutes les pages du livre. Et moi qui m'a frappé quand je l'ai lu pour la première fois en anglais.
Alors vous nous faites une confidence dans l'introduction, dans la présentation de l'ouvrage, c'est que cette traduction, cette rencontre au-delà du temps avec David Webster, elle va avoir un effet thérapeutique sur vous. Alors la question est peut-être un peu intime, mais non, avant de revenir aux parachutistes,
Non, pas du tout.
Je me permets de vous poser cette question-là parce que ce constat m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais tiens, 80 ans après,
oui,
comment un récit de cette qualité-là, avec la lucidité qui est permanente, comment ça peut, peut-être pas sauver quelqu'un, mais en tout cas, ça vous a remis sur des rails.
Ça m'a remis en selle et ça m'a aidé à supporter une situation professionnelle très difficile pendant quelques mois. Voilà, donc c'est vrai que j'ai sorti ce livre un peu comme on sort, comme on monte une barricade, et je me suis un peu barricadé derrière cette traduction. J'ai eu l'impression de vivre avec la voix de Webster dans les oreilles pendant des semaines, Et ça m'a aidé finalement, quand j'ai lu ce que lui a pu subir, lui et ses compagnons d'armes, ça m'a aidé à relativiser mes misères, qui étaient des misères voilà, que peuvent vivre certains salariés dans des conditions difficiles dans une entreprise.
Vivre...
Donc, voilà, ça m'a aidé. Et c'est pour ça que je lui rendais hommage aussi dans la préface en disant que je lui devais une fière chandelle. Parce que, oui, c'est réconfortant de trouver quelqu'un qui parle si bien et avec autant de sincérité, de moments vraiment difficiles. Parce que, bien sûr, la guerre, je pense qu'il n'y a pas d'expérience plus terrible pour un homme.
Parce que quand, effectivement, quand vous dites vivre avec la voix de David Webster, et pour ceux qui nous écoutent, je crois que c'est important de le souligner, c'est qu'au long des pages, c'est le génie de Webster, enfin un des aspects, c'est qu'on est vraiment avec cette escouade de parachutistes, on vit avec... avec tous ses tourments, ses joies, ses peines, et ça depuis la Normandie et même un peu avant,
oui,
jusqu'à la fin de la campagne d'Allemagne, où là tout se relâche et on a l'impression qu'on rentre dans des espèces de grandes vacances un peu folles où tous les cadres se relâchent et Webster il nous fait entrer, mais grâce à votre traduction, dans cet univers guerrier que
c'est une fresque
qu'on connaît pas.
C'est une fresque, finalement, c'est tout à fait exact ce que vous dites. C'est une fresque qui finalement se déroule sur une année, parce que entre le mois de mai, juin 1944, quand il est en Angleterre, et le mois de juin 1945, quand ils sont en train de piller la cave, parce qu'il y a une séquence aussi, il y a quelques séquences, on y reviendra.
La cave du Führer.
Voilà, j'ai bu le champagne d'Hitler. D'ailleurs, le manuscrit, donc, pour revenir à ce qu'on disait, n'a jamais été publié, mais dans les années 50, Webster, qui était devenu donc, journaliste freelance, indépendant, qui faisait des piges, et puis après est rentré dans différents journaux, dans le New York, je sais plus quel grand journal, il était journaliste à la fin de sa vie, salarié, il avait réussi à être enfin salarié, mais oui, il a réussi quand même à faire publier deux textes dans des magazines, alors des courts textes qui étaient des extraits de son manuscrit qu'il avait dû même réécrire un petit peu pour le publier dans des magazines. L'un, c'était La nuit qui précéda le 6 juin, qui est le moment vraiment où la tension nerveuse, il l'écrit très très bien, il y a une vingtaine de pages sur ces derniers jours, ces dernières heures avant de faire le grand saut sur la Normandie, puisqu'on sait que le débarquement devait avoir lieu le 5, il a été repoussé de 24 heures, donc il y avait trop de vent, les parachutistes ne pouvaient pas sauter, etc. Bon. Donc il y a ce temps fort qu'il a raconté dans un article de presse, je ne sais plus pour quel magazine, et puis il y a l'autre moment, parce que ça, évidemment, c'était justement peut-être le plus glamour et ce qui intéressait les journaux, et un autre article qu'il avait intitulé « J'ai bu le champagne d'Hitler », ce qui est tout à fait vrai, puisque voilà, et donc là, il raconte cette expédition
à Berchtesgaden, on croise les hommes de la deuxième division blindée française,
etc. Il raconte la minutie, mais on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, parce que c'est une scène hallucinante et hallucinée.
Mais alors, pour bien comprendre à la fois Webster et puis son ouvrage, il faut dire quelques mots de la place des parachutistes dans l'armée américaine, parce que ceux qui sautent en juin 1944, ben, ils ont 2 ans de formation, leur division a été créée, je crois, en 1942.
42, exactement.
Leur général, c'est le général Maxwell Taylor, qui sera plus tard chef d'état-major de l'armée de terre et ensuite chef d'état-major interarmes américain, un intellectuel qui a un travers particulier sur lequel on reviendra, qui est un petit peu tragicomique. Mais il faut effectivement dire quelques mots de la place des parachutistes et au sein de l'armée américaine et puis du point de vue de la la conception de leur emploi.
Absolument.
Alors, dire quelques mots.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble tellement évident. Il y a des parachutistes dans toutes les armées, on en parle tout le temps. C'est même devenu un sport pour des civils. Il y a des fédérations de parachutistes, de parachutisme à peu près dans tous les pays. Voilà. Mais il faut savoir, et pas perdre de vue quand on lit Webster, que les parachutistes, c'est, enfin, l'arme parachutiste, c'est une chose tout à fait nouvelle dans les années 40. C'est même, on peut dire, la seule arme qui a été inventée au cours et utilisée pour la première fois au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Toutes les autres armes, que ce soit l'infanterie, l'artillerie, les blindés, l'aviation, la marine, tout ça existait déjà dans les guerres précédentes, en tout cas pendant la Première Guerre mondiale. Ça a été beaucoup amélioré, beaucoup perfectionné pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais les parachutistes, c'est la première fois qu'il y avait des unités parachutistes. Et donc, le concept d'emploi, le concept tactique était tout à fait nouveau, et c'était celui qu'on appelle, avec un terme un peu poétique, l'enveloppement vertical. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'enveloppement vertical ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de sauter derrière les lignes ennemies et de pouvoir ainsi préparer, affaiblir des défenses, prendre des ponts, prendre des points d'appui et permettre aux troupes qui se font face aux lignes ennemies de percer plus facilement certaines positions. Mais l'enveloppement vertical, finalement, il n'a commencé à être mis en œuvre qu'en 1940 par les Allemands.
Donc, Hollande.
En Hollande, avec un certain succès, ils prennent certains ponts qui permettent justement aux blindés d'avancer et de ne pas rencontrer trop de résistance. Il est ensuite employé par les Allemands également en Crète.
Avec
un succès à la Pyrrhus, puisque c'est un succès, l'opération Mercure en mai 1941, qui se solde certes par une victoire des Allemands, puisqu'ils arrivent à prendre la Crète, mais au prix de pertes effroyables qui feront que d'ailleurs les para-allemands ne seront quasiment plus jamais utilisés en termes de troupes aéroportées, enfin en opérations aéroportées avant la fin de la guerre. Et donc pour les Américains, c'est quelque chose de nouveau et de fascinant. Et justement, Webster raconte très bien que dans les heures qui précèdent le jour J, quand ils sont dans cet enclos, quand ils sont coupés du monde, parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils communiquent avec l'extérieur avant de monter dans les avions et de participer au jour J.
Parce qu'ils ont été instruits en Géorgie, aux États-Unis.
Voilà.
Et puis ensuite,
envoyés en Angleterre.
Envoyés en Angleterre.
En Angleterre, où ils poursuivent des manœuvres. Mais quelques jours avant le jour J, on les isole complètement dans un camp de tente. Et là, ils sont traités comme des rois. Ils ont à manger des glaces, tout ce qu'ils veulent. Enfin, ils sont un peu comme des condamnés à mort à qui on offre leur dernier repas. Et en particulier, on leur montre un film. Alors, ils en disent, un film qui
concerne les parachutistes allemands.
Et c'est un film qui est commenté par leurs officiers qui leur disent, vous voyez ces gars-là, eh ben, vous allez faire mieux qu'eux. Mais pour faire mieux qu'eux, ça va être très difficile. Parce que regardez, et on leur projette des films d'actualité, justement des para-allemands prenant les ponts et les ouvrages fortifiés en Hollande. Alors, ça donne lieu à une sorte de brouhaha, enfin d'exultation de leur part, parce que ils s'attendent à tout sauf à voir des para allemands sur un écran de 4 mètres sur 3. Et donc, c'est pour dire que l'arme parachutiste, les parachutistes, chez les Américains, c'était tout à fait nouveau. C'était une innovation qui était due au général William Lee, qui était le père, on va dire, des parachutistes américains.
Et qui ne pourra pas participer aux opérations de Normandie.
Qui était d'ailleurs le patron, enfin le chef de corps de la 101e Airborne, mais qui aura une petite attaque cérébrale en Angleterre quelques semaines avant le saut sur la Normandie, et qui sera remplacé par Maxwell Taylor. Et donc, il avait réussi à faire accepter jusque dans l'entourage du président Roosevelt le concept de développer un peloton d'infanterie parachutiste en 1941, je crois, ou 42. Et donc, cette conception d'enveloppement vertical, elle ne va pas de soi et elle a y compris au sein de l'état-major américain, des ennemis, des gens qui considèrent que c'est une aberration de faire sauter des gens derrière les lignes, que c'est beaucoup trop risqué, etc.
Et ce qui veut dire qu'il y a une grande, vous dites, incertitude du côté d'Eisenhower.
Absolument.
Craintes sont fortes quant à la réussite de l'opération aéroportée,
les deux opérations Neptune et Albany, qui font partie de l'opération Overlord, mais qui sont les deux opérations strictement aéroportées. Il faut dire que les précédents, donc il y a deux utilisations avant le débarquement des troupes aéroportées par les Américains. D'abord en Afrique du Nord, au cours de l'opération Torche, il y a quelques dizaines ou quelques centaines de parachutistes qui prennent des aéroports, qui contrôlent certains points, mais bon, c'est pas...
Et
il y a surtout la Sicile, l'opération Husky, en mai 1943, qui là est
une demi-réussite ou un demi-fiasco.
Ça dépend comment on voit les choses. Ça implique quand même 6000 parachutistes pour la première fois, mais ça se passe assez mal. Il y a une dispersion incroyable. Certains parachutistes vont tomber jusqu'à 40 km de leur objectif. Les avions qui sont mal identifiés se font tirer dessus. Il y a des centaines de morts qui sont tirs fratricides des navires qui voient passer des avions. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1944, les avions américains auront ces fameuses bandes d'invasion noires et blancs sous les ailes pour qu'ils soient facilement identifiés par des observateurs d'artillerie et surtout qu'on ne leur tire pas dessus. Donc l'opération Husky, bon, un succès très très relatif. Et donc quand on présente à Eisenhower le plan d'Overlord, enfin quand il conçoit avec ses généraux le plan Overlord, là on parle d'engager beaucoup plus de parachutistes. C'est la plus grande opération aéroportée de tous les temps, puisque si on compte également la 6e division aéroportée anglaise qui va s'occuper du secteur dans la région de Caen, avec la 6e airborne, on a un total de 18 000 parachutistes qui vont être largués en une nuit. 18 000 parachutistes,
alors,
c'est considérable.
Ou non, parce que ça, c'est une question que je pose à l'expert. Les troupes embarquées dans les planeurs,
oui,
qui sont parfois considérées un peu, pas avec condescendance, mais ouais. Est-ce qu'elles sont considérées comme des...
Alors, ce sont des troupes aéroportées. Ce sont des troupes aéroportées.
Mais qui s'ajoutent à ces 18 000.
Qui s'ajoutent à ces 18 000 et qui n'ont pas tout à fait le même statut, ni le même prestige, et pas la même solde. Parce que une des astuces que l'état-major américain avait trouvé pour attirer des gens dans les troupes parachutistes, c'est qu'on garantissait, enfin, on offrait à tous les soldats qui seraient brevetés parachutistes $50 de plus par mois sur leur solde. $50 à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une Amérique qui sort encore de la Grande Dépression, qu'il y a beaucoup de pauvres, que justement, vous l'avez très bien dit, parmi les troupes aéroportées, il y a beaucoup de gens, de paysans, il y a des gens voilà, qui
la bonne société du Massachusetts n'est pas représentée
majoritaire, loin d'être majoritaire. Donc, c'est une motivation pour certains, sans doute pas prioritaire, mais le fait d'avoir une solde supérieure, et puis il y a le prestige des ailes, voilà, c'est le Tom Rice dont je parlais tout à l'heure m'a dit, moi je voulais absolument ces ailes, puisque quand on est breveté parachutiste, on a un petit badge avec des ailes et un parachute, je voulais absolument ces ailes. Il y a toute une mystique aussi autour des bottes de parachutistes, ils avaient des bottes spéciales qui n'étaient pas les mêmes que celles des soldats d'infanterie, et donc porter ces bottes-là, c'était montrer qu'on était un para, même quand on était en tenue pas en tenue de combat, enfin voilà, donc pour revenir à l'opération Overlord et à la partie...
Donc en fait il s'agit pour les parachutistes en Normandie de sauter, de s'emparer de routes ou de ponts qui permettront aux troupes qui vont débarquer sur Utah Beach ou Omaha Beach de pouvoir ensuite percer voilà. le front allemand, si
exactement,
je puis dire.
Exactement. Et alors, derrière Omaha Beach, il n'y a pas de parachutiste.
Derrière Utah Beach.
Mais derrière Utah Beach, voilà. Effectivement, on a même renforcé au dernier moment le nombre de... puisque au départ, je crois qu'il n'y avait qu'une seule division qui devait sauter, mais à partir de janvier 45, je crois même que c'est Montgomery qui dit non, c'est pas assez, il faut plus de parachutistes. Et donc, il y a une deuxième division qui est la 82e qui s'ajoute à la 101e. Et donc, l'idée, oui, c'est ça. L'idée, c'est de sécuriser entre les têtes de plage, ce qu'on appelle les têtes de plage, là où les chars vont débarquer. Il y a, derrière Utah Beach, quatre chaussées qui sont un peu au-dessus de cette immense plaine qui est derrière la plage et qu'il faut absolument tenir. Donc, c'est un des objectifs principaux des parachutistes, avec la prise de 40 ans aussi, la ville de 40 ans, qui fait justement la jonction.
C'est un carrefour entre stratégique dans le cadre de cette opération.
Voilà, exactement.
Eh bien, je rappelle à nos auditeurs que je reçois aujourd'hui Nicolas Ancelin, qui présente et a traduit un ouvrage tout à fait remarquable de David Webster, un parachutiste et journaliste américain, du débarquement au Nid d'Aigle, mémoire d'un parachutiste américain aux éditions Équateur, et pour quelques secondes, un petit Bobino.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Eh bien, chers amis auditeurs, je rappelle que j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ancelin pour évoquer un ouvrage de David Webster, du débarquement au Nid d'Aigle. Et nous étions à ce moment crucial de la vie des parachutistes américains lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'opération de Normandie.
Voilà.
Et donc, cher Nicolas, voilà, vous nous brossiez le contexte, la mission de ces parachutistes. Et si on affine notre zoom, si je puis dire, on arrive à David Webster, son régiment, sa compagnie, et puis sa section avec un lieutenant qu'il déteste,
voilà.
Et son escouade qui en fait va former pendant une année son cadre de vie. Donc il faut dire que la douzaine de parachutistes dans son escouade, en juin 44, ils ne seront plus que deux un an après, en juin 45. Mais entre-temps, seront passées les batailles de Hollande et puis l'Alsace. Alors, Webster, et ça, j'ai bien... Ça, ces pages, elles sont vraiment marquantes. C'est Webster et le 6 juin. Il y a la veille, quand l'opération est décommandée, alors ce qui est sidérant pour une troupe d'élite, mais c'est toute la sincérité du texte, c'est que quand on leur dit « il y a trop de vent, c'est la tempête », on peut pas y aller, l'opération est ajournée. Et voilà. Là, soulagement.
Énorme soulagement. C'est vrai qu'il y a une tension nerveuse qui s'installe au fil des jours quand ils sont dans cet enclos sur l'aérodrome d'où ils vont décoller. Il faut bien se figurer que c'est une énorme armada qui va prendre part à cette opération. Hein. Dans cette seule nuit du 5 au 6 juin, on parle de 1100 avions, de 700 planeurs qui vont décoller à intervalles de quelques secondes les uns derrière les autres. Donc, encore une fois, je voudrais juste revenir un instant sur l'incertitude qui plane sur cette opération et qui est ressentie au plus profond par chaque parachutiste. Il faut savoir que l'un des adjoints d'Eisenhower, l'Air Chief Marshal Leigh Mallory, est lui très pessimiste sur cette opération. Il considère qu'il va y avoir jusqu'à 70% de pertes chez les parachutistes. Et c'est ce qui explique en partie que au soir du 5 juin, Eisenhower en personne décide presque brusquement, on ne sait pas s'il l'avait vraiment prévu ou si c'est une impulsion de dernière minute, il décide de quitter son quartier général et de se rendre sur le terrain d'aviation de Greenham Common, qui est tout près, et où sont stationnés des dizaines et des dizaines de Dakota, des avions, et le 502e, entre autres, le 502e régiment d'infanterie parachutiste, qui est un régiment frère de celui de Webster, hein, puisque la 101e Airborne, c'est trois régiments parachutistes, 501e,
502e. Chacun composé de trois bataillons.
Chacun composé de trois bataillons, environ 2000 hommes en tout, par régiment. Et donc Eisenhower ressent le besoin d'aller voir ces hommes les yeux dans les yeux, de leur parler, d'échanger quelques mots avec eux, parce que il est.
Il y a eu des photographies d'ailleurs sur cette scène.
Il y a de très nombreuses photographies. Ça a fait la une de certains journaux. On le voit vraiment parmi ces hommes avec le visage noirci, bardé d'équipement, qui sont à quelques minutes d'embarquer dans les avions. Il discute avec eux de façon informelle et dans une interview que Eisenhower donnera en 1964, donc pour le 20e anniversaire du débarquement, il concédera bien volontiers que, en sortant de cet entretien avec cette rencontre un peu informelle avec ces jeunes soldats, il avait les larmes aux yeux. Donc c'est dire que lui, jusqu'au sommet de l'état-major, il y avait une incertitude absolue sur la réussite non seulement de l'opération Overlord, du débarquement lui-même, qui aurait très bien pu échouer, mais en particulier de sa composante aéroportée qui allait être la pointe de cet assaut extrêmement violent et qui allait être vraiment le fer de lance de l'assaut aéroporté.
Alors quand ces hommes sont lancés dans cette opération, ce qui apparaît dans le livre, c'est qu'ils sont quand même bien informés par leur commandement. Il y a la scène qui est décrite par Webster où l'officier chargé du renseignement du bataillon ou de la compagnie, je ne sais plus, leur décrit par où ils vont passer.
Absolument.
Ils seront passés entre les îles anglo-normandes, là, ils seront debout et ils accrocheront.
Voilà.
Il leur restera à peu près 20 minutes de vol.
Voilà.
Mais
Tout est répété. Vous savez, en tant que parachutiste, il faut que les choses deviennent automatiques. On n'a pas besoin, il ne faut pas réfléchir. La seule chose qui est un peu compliquée pour eux, je parle de Webster et de ses compagnons, c'est qu'on leur présente au dernier moment des maquettes de l'endroit où ils sont censés atterrir, je dis bien censés atterrir, pour leur expliquer où ils peuvent se diriger, comment, etc. Bon, c'est des grandes maquettes, là, il y a l'officier de renseignement qui les fait venir dans une tente spéciale, par petits groupes, pour leur expliquer, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, etc. C'est nécessaire, c'est une très bonne idée, mais ça n'aura en réalité aucune utilité.
Oui, on va y venir, là vous anticipez un tout petit peu, parce que la surprise, elle est d'ordre maritime, c'est-à-dire que les marées, on n'est pas loin de l'embouchure de la Douve, c'est ça ?
De la Douve, oui.
Et que quand on leur évoque devant eux le risque de tomber dans l'eau, comment faire fonctionner la May West, décrocher le harnais avant.
Pour ça, tout ça est très théorique jusque-là.
Tout ça est théorique.
Mais et Webster raconte très bien que dès qu'ils montent dans l'avion, bon d'abord avant de monter dans l'avion, il décrit l'équipement, ils sont bardés d'équipement.
C'est 40
ou 45 kilos. Ils sont saucissonnés. Il dit très bien, je m'allonge en attendant le moment de monter à bord, je m'allonge comme un chevalier dans un sarcophage, il peut à peine bouger.
Avec une tenue en laine.
Une tenue en laine, ils sont transpirants, ils sont suants, ils montent dans l'avion. Et puis là, dans l'avion, c'est une... la peur le reprend, il est sans arrêt dans des phases d'excitation, je parle vraiment des derniers instants avant le saut. L'avion, c'est le silence, il dit quand ils ont tous marché avec leurs équipements pour monter dans l'avion, d'habitude quand c'était de l'entraînement ou qu'ils faisaient des manœuvres, ils chantaient, ils scandaient les pas, là ils n'entendent que le cliquetis des équipements qu'ils ont sur eux, mais plus personne ne dit un mot, tout le monde est concentré, tout le monde
et les gens fument. Et les gens... Ce qui serait plus possible aujourd'hui.
Absolument. Dans l'avion, les gens fument. Alors certains font preuve d'un certain panache. On raconte que le général Taylor, lui, c'est carrément, il a retiré son parachute dans l'avion, il s'est endormi, il a fait semblant de dormir, parce qu'on a du mal à croire qu'on puisse dormir dans un 747 en route. Dans
un C-47.
Un C-47.
On n'en était pas encore là.
Pas un 747, non, mais un C-47 en route pour la Normandie. Et puis il y a ce moment très, très émouvant aussi, qui lui redonne courage, c'est quand il survole l'armada des bateaux. Donc là, il voit ces centaines de bateaux à perte de vue.
Oui, là, c'est le moment où il semble comprendre l'ampleur de l'opération.
Il se dit, oui, là, on va gagner. Là, c'est pas possible qu'on perde. Donc, ça lui redonne de l'espoir. Et puis, de nouveau, ils arrivent au-dessus des îles anglo-normandes. Et là, ils commencent à se faire canarder. Et puis, ils arrivent au-dessus du Cotentin. Et là, il y a des belles traces. De nouveau, la trouille, le trouillomètre remonte à 2000. Il y a des obus de DCA qui explosent à quelques mètres de l'avion. L'avion est secoué, etc. Et on leur demande donc de s'accrocher 20 minutes avant de sauter. C'est-à-dire quand ils arrivent au niveau des îles anglo-normandes. Là, leur jump master leur crie « Hook up !» C'est-à-dire « Accrochez-vous !» Donc, ils prennent leur crochet. Ils s'accrochent sur la static line et ils attendent debout. Voilà. Et ça, attendre debout dans un Dakota qui vole à 200 à l'heure avec la porte ouverte et des tirs de tous les côtés, c'est un moment, il n'a qu'une idée, c'est le moment où il va pouvoir sortir de cet avion. Il prie le ciel de ne pas mourir brûlé, carbonisé dans une carlingue, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions d'ailleurs qui vont être descendus hein, par la flak.
Et quand il sort de là...
Il sort de là.
Il est au-dessus d'une zone. Voilà. Il y a de l'eau.
Il est derrière Utah Beach. Et la seconde de terreur qu'il a, parce qu'il est, je crois, dans la ligne de parachutistes, il est le 7e ou 8e à sauter. Donc quand on est 8e, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Il y a des hublots minuscules quand on est assis, mais ils sont derrière vous, donc vous ne voyez rien du tout. Vous ne voyez le paysage que quand vous arrivez à la porte. Alors avant d'arriver à la porte, il y a deux hommes qui trébuchent, qui tombent à moitié avec leur équipement qu'il faut balancer quasiment par-dessus bord pour que leur parachute se déploie. Et puis enfin, c'est à lui. Et la seconde où il va sauter, qu'est-ce qu'il constate ? C'est qu'à perte de vue, c'est de l'eau. Et il a une seconde où il se retient, et puis il y a le gars derrière lui qui pousse, et il saute en disant, en pensant, bon, bah, c'est terminé, je vais me noyer, on ne nous a pas prévenus, etc. Et là, il saute très très bas. Hein. Nous, quand
150,
on saute.
150 mètres.
150 mètres. Donc 150 mètres, une fois que le parachute est ouvert, il y a quelques secondes avant qu'on touche le sol. Et là, il se prépare, il repense mentalement à toute la procédure. Si jamais on atterrit dans l'eau, il faut commencer à dégrafer telle boucle, commencer à enlever ceci, à enlever le parachute ventral, etc. Il n'a pas le temps du tout de faire tout ça, que hop, ses pieds touchent l'eau. Et là, miracle, il y a un mètre de profondeur, donc il tombe dans une eau putride qui sent, parce que c'est de l'eau croupie, mais dans un mètre d'eau. Donc il se relève, et là, c'est le désespoir complet.
Oui, et là, entre la précision du briefing et de la présentation de l'opération quelques heures auparavant, et la réalité de ce parachutiste de 22 ans, 40 kilos de matériel sur lui, dans un mètre d'eau.
Perdu dans un mètre d'eau.
Il est perdu dans un pays dont il ignore tout.
Il ignore tout.
Et c'est là où, c'est peut-être le génie des troupes parachutistes, c'est que petit à petit, ils se regroupent.
Oui, mais avant qu'ils se regroupent.
Mais ça va être compliqué.
Avant qu'ils se regroupent, ils restent quand même tout seuls dans l'eau pendant un bon moment. Et là, de nouveau, il y a cette expérience cruciale pour lui, qui est le fait qu'à peine a-t-il touché l'eau, qu'une mitrailleuse allemande, qui ne voit pas, se met à tirer dans sa direction et le cherche. C'est-à-dire que pour la première fois...
Il a le sentiment que les balles le cherchent.
Les balles le cherchent, quelqu'un veut le tuer, on veut le tuer, lui, David Webster. Pour la première fois, il fait l'expérience de ça, et c'est une expérience tout à fait... là encore, il fait preuve d'une sincérité incroyable,
mais,
parce qu'il...
Il dit, je vous interromps,
allez-y,
votre propos. Quelqu'un veut me tuer, ai-je pensé. C'est donc vraiment ça, la guerre ? Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un veuille me tuer. Qu'est-ce que je leur avais fait? J'avais envie d'aller les trouver pour leur dire que je n'avais envie de tuer personne, que je pensais que toute la guerre n'était qu'un ramassis de conneries. Je ne veux faire de mal à personne, leur aurais-je expliqué. Tout ce que je demande au monde, c'est qu'on me laisse tranquille. J'ai secoué la tête pour m'assurer que tout ça était vrai, et c'était le cas. Les balles ne sortaient pas de mon imagination. Elles me cherchaient pour me tuer.
Voilà.
Et là, il illustre une partie du paradoxe de ce livre, c'est qu'il se demande ce qui se passe.
Exactement.
Il n'en veut à personne, mais petit à petit, l'ennemi va apparaître comme quelqu'un auquel il faut en vouloir et qu'il faut tuer.
Mais ces lignes, Philippe, que vous avez lues, sont pour moi très importantes, parce que tout Webster est là-dedans. C'est l'absolue sincérité. Quel combattant... J'ai lu beaucoup de témoignages, comme vous, de la Première Guerre mondiale. Mais cette sincérité-là, un peu plus loin, il dit qu'il va même commencer à pleurer.
Oui.
Et puis, il se ressaisit. Et puis, petit à petit, il reprend courage. Et puis, petit à petit... Et entre parenthèses, voilà, il y a aussi ce souci du détail. Par exemple, pour s'orienter, il sort de sa poche une de ses petites
boussoles sont mouillées.
Et les boussoles sont mouillées, la boussole est inutilisable et il peste.
Oui, il dit aux États-Unis, un petit malin avait sans doute gagné une fortune grâce à ses boussoles. Et maintenant, c'est tragique. C'est moi qui dis que c'est tragique.
Mais
hommes allaient mourir. Parce que quelqu'un avait arnaqué le gouvernement et s'était rempli les poches.
Voilà, c'est ça. Ça c'est une
Donc il est dans son marécage.
Il est dans son marécage.
La boussole est pleine d'eau.
Inutilisable.
Et il se dit, mais il y a des gens qui ont profité de ça.
Voilà, c'est ça.
Alors, les opérations vont se poursuivre.
Pour continuer juste sur la confusion du combat, ça aussi c'est une dimension qu'on a du mal à saisir. C'est-à-dire que quand on est au cœur de l'action comme Webster, que ça soit en Normandie ou que ça soit en Hollande, on est sans arrêt confronté à des situations extrêmement confuses et contradictoires. Par exemple, là, il va retrouver dans ce marécage un groupe de quelques parachutistes paumés comme lui, etc. Et puis ils vont commencer à discuter. Et ils vont tout de suite ne pas être d'accord sur ce qu'il faut faire. Certains veulent rester dans le marécage, attendre que le jour se lève pour pouvoir s'orienter. Et d'autres disent, dont il fait partie, non, il faut partir d'ici tout de suite parce qu'on est à découvert et quand il va faire jour, on sera des cibles idéales. Donc, il y a presque une engueulade entre ces soldats. Et là, il n'y a plus d'histoire de grade, il n'y a plus d'histoire de hiérarchie, il n'y a plus d'histoire de... C'est des hommes qui sont confrontés à la perspective tout à fait précise et réelle de leur mort, de leur... Et qui doivent prendre des décisions vite, tout de suite, maintenant. Donc lui, il laisse, et c'est ce qui se passe, il laisse un petit groupe qui veut rester sur place, et lui, avec deux ou trois autres copains, décide de partir.
Et d'ailleurs, pour compléter votre propos sur la diversité de ces soldats au sol, il écrit « 6 hommes étaient accroupis comme des poulets réfugiés après avoir été chassés de leur perchoir et caquetaient bruyamment contre ces fourbes d'Allemands ». Voilà. Il y avait un sergent d'une compagnie du 2e bataillon, un mitrailleur d'une compagnie de commandement ayant perdu un frère aîné à Anzio et qui avait rejoint les parachutistes pour le venger. 2 hommes du 501, un du 502, un du 508 de la 82e aéroportée. 4 des 6 régiments qui avaient sauté étaient présents dans ce groupe. Donc je crois que ça donne une idée
de la dispersion. La dispersion incroyable des parachutistes. Il faut savoir que cette opération aéroportée, il y a des paras qui ont été parachutés tout à fait au nord du Cotentin, dans la région de Cherbourg, pas très loin de Cherbourg, et qui ont mis des semaines. On les a retrouvés barbus, hirsutes, affamés. Quand les Américains ont pris Cherbourg à la fin du mois de juin, ils étaient restés là, isolés des autres. Il y en a qui sont tombés en mer, qui se sont noyés, parce que les avions n'avaient pas vu qu'ils étaient au-dessus de la mer. Et il y a même cette histoire terrible d'un stick entier de parachutistes. Un avion, c'est à peu près entre 20 et 24 parachutistes qui, dans l'affolement, le pilote a mal... La nuit était noire, il a mal dû estimer son altitude. Il a largué les parachutistes à environ 50 mètres d'altitude. Le parachute n'a pas eu le temps de s'ouvrir et on a retrouvé les 20 bons hommes alignés tous les 50 mètres dans la campagne, tous morts.
Et donc, malgré tout ça... puisque l'émission avance et on va évoquer ensuite des points caractéristiques de la campagne de Hollande et puis d'Alsace et d'Allemagne, Il écrit finalement, et avec l'assistance d'hommes appartenant à d'autres unités, les objectifs du jour J assignés au régiment furent conquis et consolidés. Le 11 juin, après des combats de plus en plus éloignés des plages, nous avons longé de nuit une chaussée interminable, jonchée des corps des hommes du 502e, tombés dans une attaque frontale. Et à la lueur vacillante d'une usine en feu, nous avons coupé à travers champs pour encadrer par le flanc la ville clé de 40 ans à la jonction des têtes de pont d'Omaha et d'Utah. Et puis, il va être blessé.
Voilà.
Et sa campagne de Normandie va s'achever avant celle de ses camarades.
De ses camarades.
Ouais. Et,
pas tellement avant, puisque les parachutistes, comme on le disait,
les troupes
d'élite vont être retirées à peu près vers la mi-juillet, hein, puisque c'est une troupe qu'il faut préserver, qu'on veut prête à tous les assauts futurs. Et donc, une fois que le Cotentin est coupé en deux, que Cherbourg est pris, on considère que les troupes aéroportées n'ont plus rien à faire là. Il y a assez d'unités d'infanterie, donc ils rentrent en Angleterre. Lui donc rentre un petit peu avant, puisque donc il est blessé par un éclat de mortier au bras, assez légèrement blessé d'ailleurs, et il est lui-même assez étonné de rentrer en Angleterre pour si peu, on peut dire, et presque on revient à sa curiosité, parce qu'il écrit à son frère, même si le fait de rentrer en Angleterre, c'était la certitude d'un bon repos, d'un bon lit chaud, etc., il dit textuellement « J'étais désolé de partir, car je voulais voir d'un peu plus près des combats rapprochés. » Voilà, ça...
C'est tout le paradoxe, hein, de David Webster, c'est que à la fois il a une haine manifeste pour la guerre, mais en même temps il veut y être,
voilà,
et il veut l'observer de très près et y participer.
C'est la contradiction permanente, et c'est cette contradiction
aussi le grand intérêt du livre.
Absolument. Absolument. Donc, il rentre en Angleterre et là, il y a aussi un autre moment. Alors, en Angleterre, bon, il retrouve son régiment et là aussi, il y a une autre scène qui décrit
très
bien.
Poignant.
Un moment très, très poignant. C'est qu'il y a un service à la mémoire des soldats qui sont tombés en Normandie, de son régiment, hein, de son 506e. Et donc, on réunit tous les hommes dans une grande prairie. Et il y a un officier qui monte sur une estrade et qui a un papier à la main et qui lit d'une voix très forte et en espaçant bien les noms de tous ceux qui sont morts en Normandie. Et Webster dit « ça dure très longtemps ». Il y a, je crois, quelque chose comme 230 noms. Donc, ça veut dire que sur un effectif d'un peu moins de 2000 soldats, en un mois de campagne en Normandie, il y a eu presque 10% de tués, sans parler des blessés. Hein. Et donc, il dit ce moment-là, à chaque fois que l'officier énonçait un nom, il dit, parce qu'il n'avait pas forcément eu des nouvelles de tout le monde, c'était juste après le retour en Angleterre, il dit « Ah, celui-là, il est mort !» Ah ouais, et hop, il évoque celui-là, d'où il l'avait connu, si c'était un cuisinier, si c'était...
Et c'est là où je reviens sur l'intérêt qu'il a pour chacun de ses camarades, c'est que quand il écrit ça, il se souvient parfaitement...
Exactement.
De la petits détails, physique, le
de
détail,
certains qui étaient des chanteurs,
le caractère.
D'autres qui étaient des bons vivants, d'autres qui étaient des têtes de cochon qu'il n'aimait pas forcément. Mais à chaque fois, c'est quelqu'un qu'il a connu, qui a participé à la même opération que lui et qui est resté, qui a donné sa vie en Normandie.
Et là, on n'est pas dans une appréciation globale des pertes. On est à travers cette description.
Voilà.
Dans
c'est des noms, c'est
chaque,
des gens.
Chaque nom, c'est un visage, une
histoire. C'est
et,
ça.
Et c'est ça
c'est,
aussi.
Et c'est une vie qui ne sera pas vécue.
Beaucoup d'émotion
c'est
au lecteur.
Voilà, c'est ça. Et il explique à chaque fois que ça, c'est une vie qui ne sera pas vécue.
Et alors, après le succès de la Normandie, c'est l'échec en Hollande, que lui ne perçoit pas complètement. C'est la volonté des Britanniques et de Montgomery de contourner la ligne Siegfried, et donc employer des parachutistes rejoints par des troupes blindées qui permettrait ensuite voilà. aux alliés de faire irruption voilà. dans les plaines du Nord. Et donc lui, il est au cœur de tout ça.
Il est au cœur de cette action, de cette grande opération, la deuxième opération majeure qui est l'opération Market Garden. Market étant l'opération aéroportée suivie de l'opération Garden. Donc comme vous l'avez dit Philippe, l'idée c'est de contourner la ligne Siegfried et de prendre la Ruhr. Et à partir du moment où la Ruhr étant le cœur industriel de l'Allemagne, Montgomery est persuadé que la guerre s'arrêtera. Donc il arrive à convaincre Eisenhower, qui n'est pas tellement favorable à ce plan quand même très très audacieux. Et là, clairement, tout repose sur les parachutistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre une enfilade de ponts, de tenir ces ponts, et ensuite que le 30e corps du général Horrocks, et notamment les unités blindées de ce 30e corps, fassent la jonction avec ces ponts et arrivent jusqu'aux plaines, ce qu'on appelle les plaines roulantes pour les blindés, de la Ruhr, et déferlent sur la Ruhr, prennent toutes les usines de sidérurgie allemande, et là ça mettrait fin à la guerre. Sauf que là, les alliés sont clairement beaucoup trop gourmands, ils veulent aller donc de la ligne de front jusqu'à Arnhem, hein, le fameux...
Et là, les parachutistes anglais...
Et Arnhem, c'est situé 100 km derrière les lignes allemandes. Et là, c'est un échec. Alors, c'est un échec pas tant pour les Américains, qui,
pour les
par prudence, se sont mis, on va dire, en queue de peloton. Donc, eux, ils ont à prendre les premiers ponts et à prendre notamment Eindhoven. Et ils vont arriver relativement bien à tenir ses premiers ponts et à sécuriser le début de cette chaussée. Mais les Anglais se retrouvent isolés. Cette route qui s'appelle donc c'est la route numéro 7, je crois, en Hollande, obtient à cette occasion le surnom de Hell's Highway, parce que c'est un cordon très mince, et les Allemands tout autour vont avoir de cesse de couper ce cordon, de faire des contre-attaques sans arrêt, et vont réussir à isoler les Britanniques au bout de cette tête de pont, les encercler dans Arnhem, et ça va être un massacre.
Et c'est la description que fait Webster de ces opérations en Hollande m'a mis pour moi en relief deux choses. La première, c'est que par rapport aux Français et à l'accueil qu'ils ont eu en Normandie, Webster souligne l'accueil.
Ah oui,
l'accueil
absolument.
Des Hollandais. Alors, ils soulignent aussi la propreté des fermes.
Absolument.
Ils ont là, il y a un accueil par les Hollandais.
Oui.
Alors qu'il dit, mais enfin, il était marqué par l'indifférence des Français.
Oui. Absolument.
Et par l'espèce d'enthousiasme des Hollandais pour
ça, c'est vrai.
Pour eux.
Ça, c'est vrai. Ils considèrent la Hollande comme leur plus belle victoire. Et l'accueil que fait la population hollandaise, notamment la prise d'Eindhoven, ils expliquent qu'ils ne peuvent plus avancer. Ils sont couverts de fleurs, couverts de baisers. Tout le monde leur saute dessus. C'est un moment de joie. Il dit ça paye toutes les peines qu'on a pu vivre jusqu'à présent.
Ah oui, il explique qu'il rapporte un petit déjeuner dans une famille hollandaise.
Il est reçu
fabuleux.
Partout. En plus, même à l'époque, la plupart des Hollandais parlent très bien anglais, ce qui n'est pas le cas des Français. Mais pour expliquer aussi la différence d'accueil qui est tout à fait réelle, mais lui prendra même plusieurs fois plutôt la défense des Français, mais on sent que dans son escouade, il y a beaucoup de gens qui sont hostiles aux civils français, hein, je parle. Et une des raisons aussi qui explique ça, c'est que l'opération Market Garden auquel il participe, elle n'est pas précédée
de bombardements
dans la même proportion que ce qu'ont subi les Normands. Il ne faut jamais oublier que les civils normands, c'est entre 15 et 20 000 morts civils avant que la Normandie soit libérée. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que les Français étaient peut-être un peu moins enthousiastes à sauter au cou des Américains. Il y en a eu, bien sûr, c'était quand même des libérateurs, mais par rapport aux Hollandais, qui voient juste des libérateurs tomber du ciel...
Sans effets collatéraux...
Voilà, ou avec un minimum d'effets collatéraux...
Alors ça, c'était la première chose, et la deuxième... c'est la comparaison, enfin c'est le regard qu'il porte sur les troupes blindées britanniques. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que Vous me direz, on est peut-être dans l'ordre du détail, mais il évoque un régiment blindé de la garde, en disant les officiers ont des grands noms d'Angleterre, et puis tous, officiers, soldats, ils ont une tenue, on les dirait, sortie des guérites de Buckingham, quelque chose comme
ça.
Et en contrepoint, vous avez, il fait la description de ce que eux sont, avec parfois des uniformes ou des éléments d'uniforme qui ont été pris, dépareillés, qui ont parfois été pris aux Allemands. Lui, il porte un blouson d'être le conducteur de GMC. Enfin, j'ai trouvé que le paradoxe entre le parachutiste américain et puis
les soldats anglais
était assez intéressant aussi à souligner.
Il y a un mélange d'admiration, d'affection et de pour les Limeys, le terme argotique des anglais, des américains vis-à-vis des anglais, ils les appellent les Limeys parce que ça vient du fait que dans la marine anglaise, on le donnait des citrons pour lutter contre le scorbut et ils avaient gardé ce surnom, on disait pas les troufions, ils les appelaient les Limeys. C'est vrai qu'il y a un mélange d'admiration pour la tenue impeccable, la discipline et puis même leur ration de puisqu'ils vont jusqu'à chaparder des rations anglaises qui sont quand même bien meilleures puisqu'il y a des petits pois, du bacon, etc. Donc il y a tout un moment où ils vont faire diversion avec un peloton d'anglais pendant que des copains vont piquer des rations, un autre
des nombreux aspects de ce livre, c'est que au travers de la guerre, la question du confort dans la vie quotidienne, elle est quand même recherchée, avec des petits détails qui en sont pas pour eux des petits, hein. La question de la qualité des rations anglaises ou et américaines, le fait qu'on va pouvoir être au sec ou pas, qu'on va pouvoir faire sécher ou non ses vêtements, est-ce qu'on va pouvoir faire du feu et dans quelles conditions, et Webster n'oublie jamais de rapporter la nécessité pour le soldat d'avoir ces moments de confort, et on va passer rapidement de la Hollande à l'Alsace, et il y a un des chapitres, alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez intitulé comme cela, mais ça concerne ce que vous appelez la chaleur du foyer,
oui,
ou quelque chose comme ça.
Notre foyer était à l'abri.
Quand il dit l'hiver 44-45, c'est un des plus durs depuis 50 ans.
Ouais.
Et il se retrouve en Alsace. Et là, on voit encore l'intérêt de la petite cabane. Ils sont à Agno. La ville est à moitié partagée entre Américains et Allemands. Et pour tenir bon...
Une maison.
Voilà.
Ils occupent une maison, effectivement. Et là, c'est, je dirais, presque l'épisode le plus sombre de la guerre. Et c'est d'ailleurs, il faut rendre hommage à Steven Spielberg et à Tom Hanks. Dans la série Band of Brothers, je crois que c'est le 8e épisode qui se passe à Agno et dont David Webster est le personnage principal. Et justement, c'est l'histoire de cette patrouille qui doit aller chercher des prisonniers de l'autre côté de la Moder. Lui ne participe pas à la patrouille, il est en appui sur la rive occupée par les Américains, mais il y a donc une patrouille qui va chercher des prisonniers pour avoir du renseignement. Bon. Et là, c'est vrai que c'est terrible parce que ils font deux prisonniers dans l'escouade qui va s'en occuper. Et il y en a un qui, dans la bataille, la bagarre qui s'ensuit dans la maison où ils vont saisir ces officiers, ces soldats, ces prisonniers,
qui deviennent prisonniers.
Il y en a un qui descend à moitié, qui prend une balle dans le poumon, qui traîne jusqu'à la berge, et puis à la berge, quand ils arrivent à la berge pour repasser de l'autre côté du fleuve, ils s'aperçoivent qu'il est trop gravement blessé, et ils le laissent là en disant, de toute façon, il va mourir, il en a plus pour longtemps, on le laisse là, on l'emmène pas, ça n'a pas d'intérêt.
Et ils l'entendent râler.
Il rentre et là, ils l'entendent râler pendant des heures et des heures et des heures. Et Webster, lui-même, avec tout l'humanisme qu'il a, c'est insupportable d'entendre quelqu'un agoniser. Ils entendent ce sifflement, ils entendent cette respiration bruyante parce qu'il a sans doute pris une balle dans le poumon. Le type est considéré comme... Il pleut, c'est la nuit noire, etc. Et Webster décide... Ça paraît incompréhensible d'aller l'achever avec son poignard. il sort dehors, et là, il y a des tirs d'obus, il rentre de nouveau dans la maison, il n'ira pas. Il ressort quelques minutes après avec un autre copain en disant « on va lui lancer quelques grenades et on va l'achever à la grenade ». Pourquoi l'achever ? C'est là l'idée de notre foyer était en sécurité. Ce qu'il appelle son foyer, c'est cette maison qu'ils occupent. Et si quelqu'un avait pu récupérer le prisonnier, il y a un canon de 88 de l'autre côté.
Il y a un risque pour eux.
Il y avait un risque que ce soldat leur indique précisément où était la maison où se terraient les Américains. Donc finalement, en tuant cet Allemand, ils se sauvent eux-mêmes. Donc ils y retournent à deux avec des grenades. Ils lancent des grenades par-dessus la rivière jusqu'à la berge. Ça tombe dans la boue. Il y en a une qui explose. L'autre, ils se disent « bon, ça y est ». Et puis ils attendent et de nouveau, ils entendent cette respiration. Le type n'est toujours pas mort. Donc il rentre et finalement c'est le lendemain matin un autre qui retourne encore avec des grenades et qui finit par tuer ce pauvre. Et Webster a des mots terribles pour décrire, même si c'est un ennemi, ce que ce pauvre type doit vivre doit vivre ses derniers instants abandonné dans le noir, sous la pluie, terrorisé. C'est toute l'horreur de ce que représente la guerre qui est expliquée en quelques lignes d'une clarté.
Et cette horreur de la guerre, elle se traduit aussi par ce qu'il dit du pillage, parce qu'il distingue le grappillage ouais, effectué par les soldats qui ne sont pas forcément les meilleurs, donc là aussi il est lucide sur ce qu'ils font réellement en dehors des opérations de combat.
Absolument, il raconte tout et il raconte ce qui n'est pas forcément très gratifiant, c'est-à-dire que quand ils sont dans cette maison, il faut qu'ils aillent chercher des couvertures, de quoi manger, de quoi se chauffer, de quoi s'éclairer, donc ils vont dans les maisons ruinées aux alentours, ouvrir des tiroirs, voir dans des cuisines s'ils peuvent récupérer de l'huile, etc. Donc ça, ils ne considèrent pas, c'est ce qu'il appelle le grappillage de survie. Et puis, il y a aussi ce à quoi il assiste de la part de beaucoup de soldats américains, et en particulier ceux qui ont le moins combattu, qui sont arrivés tout à fait à la fin de la guerre, et qui se déchaînent sur les civils allemands, qui les détroussent vraiment comme des bandits de grand chemin, qui leur vident les poches en hurlant et en se prenant, eux, pour des guerriers. Et ça révolte Webster, qui a un peu cette formule en disant « moins ils ont combattu, plus ils sont...
» Plus ils sont méchants ou mauvais avec la population. Il nous reste peu de minutes et nous entendrons en finale... un extrait de la bande originale de Band of Brothers, mais une question qui peut vous paraître un petit peu étrange pour vous. Est-ce que Webster est antimilitariste ?
C'est une bonne question, comme on dit. Je pense que oui. Je pense que profondément, il appartient à cette génération de citizen soldiers qui sont allés à la guerre parce qu'il fallait la faire. C'est ce que m'ont raconté, moi, les paras que j'ai pu rencontrer. Il fallait que quelqu'un le fasse. Il fallait que quelqu'un y aille.
Parce que quand il décrit rescapés des camps,
voilà,
qu'il voit en Bavière, près de Dachau, ou des prisonniers de guerre sur les routes qui ont été maltraités, il dit, en fait, je sais pourquoi on s'est battu.
Voilà, mais on peut être antimilitariste et combattre. Je pense que c'est pas du tout... Il démontre que c'est possible. Il dit même, alors c'est un jeune homme, il a 22 ans, quand il libère le complexe concentrationnaire de Koffering, voilà, et il voit ces déportés, décharnés de toutes les nationalités, dont certains meurent sous ses yeux, etc. Il dit, il faudra ruiner et ravager suffisamment l'Allemagne pour en extirper le germe d'une autre guerre. Donc là, il sait bien pourquoi il s'est battu.
Eh bien écoutez, Nicolas, c'est sur ces paroles que nous allons presque nous quitter, puisque Jocelyn à la technique va nous envoyer un extrait de cette superbe musique qui a accompagné Band of Brothers, cette série qui doit beaucoup à David Webster. Et donc,
dont j'ai été très heureux d'évoquer la mémoire en votre compagnie, Philippe, parce que vous êtes un lecteur très attentif et j'espère que ça donnera envie
et ben, à nos auditeurs, auditrices,
ce livre.
J'espère qu'il est encore disponible.
Oui, oui,
du débarquement au Nid d'Aigle, mémoire d'un parachutiste américain aux éditions Équateur, traduit de l'américain et présenté par vous, cher Nicolas. Et maintenant, quelques notes de cette musique de Bonnet Brothers.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardo, diffusé sur Radio Courtoisie en direct lundi 18 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.